Aujourd'hui, la masterclass d'Annette Messager avec Anaëlle Pijat.
Nous ouvrons avec vous, Annette Messager, cette nouvelle masterclass de France Culture qui se déroule en public dans le studio 105 de la Maison de la Radio. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment des artistes construisent leur œuvre, depuis l'idée de départ jusqu'au moment où ils considèrent ces œuvres comme achevées. De leur début jusqu'à leur plus importante réalisation, les créateurs et les créatrices invités de ces entretiens nous racontent les étapes de fabrication de leurs travaux. Avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments de votre parcours, Annette Messager. Récemment, on a vu votre travail dans les plus grands musées et galeries. Vous participez l'automne prochain à l'exposition que le domaine de Chantilly consacre au massacre des innocents de Poussin. Cet hiver, votre travail a fait l'objet d'une grande exposition à la Villa Médicis à Rome. Vous avez inauguré l'espace de nouveau de la librairie Marianne Goodman à Paris. Vous avez en 2016 reçu le prix Premium Impérial, qui est l'une des plus importantes distinctions dans l'art du Japon international. En 2007, le Centre Pompidou vous consacrait une grande exposition, Les Messagers, mais il y a eu aussi Düsseldorf. Sydney, en 2005, vous représentiez la France à la Biennale de Venise pour votre pavillon Casino, qui vous a valu le Lion d'Or. Pendant toutes ces années, Annette Messager, votre œuvre a pris des formes extrêmement variées, des albums d'images, des photographies, des sculptures, des installations, mécanisées ou pas, des dessins aussi. D'ailleurs, très tôt, vous vous êtes donné des identités multiples. Annette Messager artiste, Annette Messager collectionneuse, truqueuse. Il y a dans votre travail ce mélange de légèreté et de gravité que l'on retrouve par exemple dans votre exposition à la Villa Médicis. Dans l'atelier de Balthus, vous avez transformé la Joconde en une petite poupée que vous avez affublée d'un utérus, comme Duchamp lui avait mis.
C'est pas une poupée, c'est la Joconde.
Moustache. C'est la Joconde qui est une poupée.
Oui, c'est pas la vraie Joconde. Oui.
C'est pas la vraie Joconde.
Mais en fait, vous savez tout sur moi, beaucoup mieux que moi, sur moi.
Continuez. Je crois pas tout savoir, parce que je crois qu'il y a dans votre travail une ambivalence assez essentielle qui fait que vous montrez une chose et puis peut-être vous montrez aussi son contraire. Finalement, vous montrez toujours des fragments, vous ne montrez pas des touts. Mais revenons à vos débuts, enfin, commençons par le commencement. Annette Messager, vous êtes née au bord de la mer, à Berck, dans le nord de la France. Vous racontez volontiers que les distractions principales étaient Monoprix et la Maison de la Presse, mais je crois que votre père était architecte et qu'il vous a pas mal emmené au musée. Est-ce que vous avez un choc esthétique ? Est-ce que ces visites ont été marquantes dans votre vie d'artiste ?
Bonjour et puis merci d'être venu par ce beau soleil parce que vous êtes très courageux d'être là. Mes débuts, mon enfance, c'est un peu loin, mais effectivement je suis née dans une ville à Berck qui est très particulière parce que d'abord il y avait la guerre, ça avait été détruit, il y a deux blocos de chaque côté de la plage. Et deux énormes hôpitaux, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de malades de tout le monde qui venaient se faire soigner là-bas. Pour le mal de pote, parce que l'air est très vif et très bon, plein d'ultraviolets. Donc c'est une ville, une petite ville de province, mais en fait qui est très étrange, parce que beaucoup de gens de partout, ces malades qui sont un peu les rois de la ville. J'étais un peu jalouse des gens en gouttière, ces gouttières c'était comme ça, des grands lits avec des roues. Je me disais, ça doit être drôlement agréable d'être transporté comme ça. Et puis il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, donc tous ces gens écrivaient des poèmes sur la plage, faisaient des tableaux, des peintures, des petits dessins. Donc c'était pour moi une ville très voilà, très poétique, en même temps sûrement dur, mais vous savez, quand on est enfant, les débris de la guerre, les ruines, c'est des terrains de jeu, tout ça. Des mines, il y avait des mines dans les dunes, on ne devait pas aller, on y allait, en fait, tout ça, c'était très amusant.
Si ce ne sont pas les visites dans les musées qui vous ont conduit.
Bah, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de musées, mais c'est vrai que j'allais à Lille avec mon père et que j'ai vu les Goya, les jeunes et les vieilles et c'était très très impressionnant. Mais il y avait aussi beaucoup de, disons, c'est pas très loin des mines du Nord, et donc beaucoup d'art brut. Il y a une tradition d'art brut. Il y a un grand artiste reconnu aujourd'hui, Le Sage, parce que les mineurs, quand ils sortaient de la mine, l'air les droguait tout d'un coup d'être comme ça au grand air où ils avaient eu une respiration très très affaibli, donc ils avaient des visions et puis il y avait des choses de spiritisme, enfin tout ça. C'est une région quand même assez très créative, je trouve.
Quand vous êtes venu à Paris, vous avez décidé d'entrer aux Arts Déco plutôt qu'à l'École des Beaux-Arts parce que c'était une vision plus ouverte de l'art.
Oui, j'avais été reçue aux deux, mais en fait c'était nul les deux. Bah oui, on me remettait devant un plâtre où j'avais fait que ça, fini. Et j'ai eu la chance que c'est rue d'Ulm, l'école des arts décoratifs. D'abord, il y avait des cours du soir, donc j'étais libre toute la journée pour découvrir Paris, aller dans les galeries, les musées. Et puis, il y avait la cinémathèque rue d'Ulm. Alors, j'ai vu énormément de films. Je ne comprenais rien. J'ai vu L'homme qui dort de Warhol pendant 4 heures, je me disais, mais il va peut-être se réveiller. Mais non. Enfin, je pense que j'étais très, très influencée par le cinéma, la fragmentation, la progression, que ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée, beaucoup plus que l'école des arts décoratifs.
Alors, quelques années plus tard, vous-même, vous avez enseigné à l'École des Beaux-Arts. Je me demandais quels étaient les rapports que vous aviez eus vous-même avec vos étudiants. Si on n'apprend pas à faire de l'art, est-ce qu'on peut enseigner l'art ?
Ben oui, j'ai été prof à Bordeaux d'abord, parce que fallait gagner sa vie. Et puis, c'est vrai, Jacques Lang avait établi une loi très très bien où si on... sans diplôme, on pouvait être prof. Donc ça c'est formidable. Ça a changé ma vie, si je puis dire, parce que j'ai exposé déjà beaucoup, mais je ne vendais rien. Puis de toute manière, pour moi, vendre, c'était sale, quoi. Les artistes qui vendaient, c'était très méprisable. Ça, c'est le début des, enfin, c'est les années 70 où on croyait encore à l'après 68, comme ça, une sorte de post-révolution artistique, et c'était bien de ne pas vendre, en fait, c'est beaucoup plus chic. Donc, alors là, j'étais dans le chic absolu. ça s'apprend pas, l'art, mais je parlais beaucoup avec eux, j'aime beaucoup triturer les matériaux, les déplacer, donc voilà, c'était une sorte de rapport, mais physique, quoi, où je faisais pas des speeches, mais en réalité, il faut apprendre, quand il faut parler du travail d'un étudiant qui a presque rien fait et que c'est quasiment nul, il faut trouver quelque chose à dire. Donc en fait, ça m'a appris à parler, non pas de tout et rien, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, au moins, ça fait sortir des choses. Et pour mon travail, que je n'aurais pas voulu faire.
Cette question est un peu abyssale, mais nous la posons à tous les invités de cette masterclass de France Culture. Annette Messager, vous croyez dans la vocation ?
Bon. Ça, je ne comprends même pas la question.
C'est-à-dire, au fond, pourquoi vous faites de l'art ? Est-ce que vous savez dire ?
Et d'abord, je ne sais rien faire d'autre. Donc, c'est déjà un bon... Et puis pour moi, ça me semblait, comme petite fille, je faisais toujours des dessins à côté de mon père qui faisait de la peinture. Mon frère, ça ne l'intéressait pas, donc voilà. Et j'ai eu l'impression que je continuais comme ça, qu'il n'y a pas eu de coupure quand je suis arrivée à Paris. Bon, je voulais continuer. Après, les rapports avec le milieu de l'art, ça a changé un peu. J'étais quand même assez étonnée de ce milieu par rapport à l'époque d'autrefois où c'était quand même assez difficile pour d'être femme artiste. Mais sinon, pour moi, c'était normal. Mon père peignait, tous les gens autour de moi, les malades faisaient de la peinture. Donc,
Alors justement, poursuivons ces présentations, Annette Messager, parce que évoquons un peu ce que vous avez regardé à l'époque. À l'opposé de l'art conceptuel et de l'art minimal qui se développait, votre regard vous a tourné plutôt vers le quotidien que vous avez pris comme un matériau de votre travail. Vous vous êtes intéressé à Breton plutôt qu'à Dada. Vous avez regardé Marcel Bretars. Vous avez regardé Joseph Beuys, Bruce Nauman, Phil Yu. Est-ce que c'était une position artistique difficile à tenir dans ce Paris des années 70?
L'art, à ce moment-là, dans les débuts des années 70, est effectivement... Je ne pars pas de Paris, hein, parce que, en fait, moi, mes débuts, ça n'a pas été du tout en France, c'était en Allemagne. C'était l'art minimal, l'art conceptuel, que je trouve formidable. Mais je ne me sentais pas de ce côté-là. Donc, ça ne me correspondait pas. Parce que moi, j'ai toujours voulu utiliser des matériaux différents, des matériaux simples du quotidien. Donc, j'ai, en tant qu'artiste, on accentue les choses. Donc, j'ai accentué beaucoup ça. Et c'est pour ça que les gens comprenaient pas de passer d'une photographie à un dessin, à une broderie. Ils me disaient, non, mais tu t'en sortiras jamais. Il faut faire la même chose. Regarde Warhol, regarde. Les gens comme ça font toujours. En une ligne comme ça, mais moi, donc en fait, c'est vrai que j'ai tout fait pour que ça ne marche pas, si je puis dire, mais je savais pas faire autre chose que ça, puis j'avais pas d'autres envies surtout.
Vous parliez à l'instant d'art brut, mais vous vous êtes aussi inspiré d'art dit mineur, des manuels de chiromancie, des traditions tantriques indiennes, des livres de tatouage. Ça aussi, c'était assez rare dans ces années 70. D'où vous est venu ce goût-là?
Non, mais j'aime bien regarder les formes différentes. Vous savez, je pique, je vole. Les artistes volent beaucoup autour d'eux, ce qu'ils regardent. C'est leur boulot, si je puis dire, de regarder, de prendre et de s'approprier. Donc, je regarde aussi bien les magasins, les gens qui marchent dans la rue, leurs gestes. Et tout ce qui m'entoure, et l'art en général, mais l'art délaissé ou des affiches déchirées, des petits graffitis, je crois que je suis un petit peu curieuse.
Et je voulais revenir aussi au cinéma, parce que vous parliez de la cinémathèque voisine des Arts Déco rue d'Ulm, mais je crois que le cinéma vous a beaucoup intéressé. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a aussi joué sur la méthode que vous avez mise en œuvre dans votre travail, cette histoire du montage?
Oui, je crois que je n'ai jamais fait une chose, une peinture ou un dessin, mais une sorte d'accumulation, peut-être pour me dissimuler ou dissimuler ou par peur de la chose unique. Mais je crois que ça vient plus de la littérature. J'étais très très très, je suis toujours très très admirative, et j'ai été très très obsédée par le livre de Barthes, Fragments du discours amoureux, ou Marguerite Duras, et le cinéma, les gros plans d'Hitchcock, parce que j'ai fait beaucoup de photos de fragments de mes amis, comme ça, d'oreilles, de cheveux, de nombrils, de tout. Mais ça vient vraiment du cinéma et de d'Hitchcock, parce qu'il y a que le cinéma qui a montré ça, même pas la photographie d'époque, les gros plans, c'est le cinéma qui a découvert ça. Et l'ambiguïté à la fois de la terreur, de la peur que ça peut provoquer, et aussi de l'amour et de la possession.
Pour faire le tour de tout ce que vous avez regardé, votre œuvre est aussi évidemment un dialogue avec la grande histoire de l'art, si on peut dire les choses ainsi, aujourd'hui plus que jamais. Et je voulais évoquer avec vous cette commande qui vous a été passée par le musée de Chantilly autour du massacre des innocents de Poussin.
Oui, non, c'est la première fois que je réponds à une commande à partir d'un autre tableau. Il va y avoir en septembre une exposition à partir du tableau de Poussin, Le massacre des innocents. qui est un tableau qui, enfin malheureusement, tant mieux pour Chantilly, mais c'est tout un ensemble donné par un collectionneur au 19e de tableaux fantastiques, et ils n'ont pas le droit ni même de bouger d'emplacement dans le musée, ni même d'être prêté ailleurs. Et ce tableau de Poussin est très très simple, vraiment. C'est la fuite en Égypte, et ils ont voulu tuer tous les petits bébés et garçons, parce qu'ils pensaient que c'était le petit Jésus, pour trouver le petit Jésus. Et donc il y a une femme qui a un bras qui traverse ce tableau, qui est tout tout blanc, qui est immense ce bras, et elle a le visage blanc, blanc, blanc comme un masque, avec la bouche ouverte. Et Picasso disait c'est le premier cri en peinture. Et Picasso et Bacon, parce que Bacon, bizarrement, a vécu à Chantilly quand il avait une vingtaine d'années. Sans doute, il avait un amoureux. Il a appris le français à Chantilly et il a découvert ce tableau, et il a dit qu'il n'aurait peut-être pas fait de peinture. Il ne savait pas ce qu'il allait faire exactement s'il n'avait vu ce tableau. Donc son premier tableau, c'est une sorte de bouche ouverte qui sera exposée là, une sorte de cri comme ça, très très étrange, très 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 effrayant, très sombre. Et Picasso a fait Guernica d'après le tableau de Poussin.
Et pour vous, qu'est-ce que ça représente de vous inscrire dans cette histoire d'une manière différente de ce que vous avez fait précédemment ?
En fait, je pense qu'ils ont raison. Malheureusement, l'actualité montre qu'il y a des innocents et des massacres partout de plus en plus. Donc en fait, c'est par rapport à l'actualité. Il y a eu dernièrement dans Libération cette couverture de ces enfants en Syrie asphyxiés, qui était une photo mais atrocement belle, quoi. Je veux dire, c'est comme un tableau, parce que ces enfants ont les yeux ouverts, sont morts les yeux ouverts, ils ont des couleurs aux joues. Enfin, je veux dire que tout ça est tellement effrayant, mais que c'est aujourd'hui notre quotidien. Et enfin, moi, ça me pose. Je pense qu'un artiste, même sans le savoir, je pense qu'il y a toujours un côté politique, d'abord de s'affirmer soi-même. Et je n'aime pas ce qu'on appelle l'art politique. Mais par contre, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, justement, aujourd'hui, en ce moment où. Je suis une citoyenne, dernièrement, toutes mes identités, voilà, c'est fait, mais c'est plus une identité sociale et les choses que j'ai fait par rapport au Femen, qui c'est pas grand chose, mais c'est des dessins ou des travaux plus récents sur les interdictions, etc. Parce que aussi, il y a tellement de choses sur Internet, vraies ou fausses, mais enfin, je regarde beaucoup les images, etc. Donc ça a changé mon travail. Et je me pose tellement de questions de savoir, je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à ça, justement, par rapport à cette actualité qui est tellement horrible, mais en même temps, moi, je suis une privilégiée, tranquille, voilà. Donc c'est vrai que je ne sais pas où j'en suis. Et j'étais contente, donc j'ai fait une pièce qui s'appelle « Les innocents », de faire au moins, c'était une commande.
Avec une pratique aussi diverse que la vôtre, Annette Messager, on se demande comment vous travaillez. Vous avez l'habitude de faire la distinction entre le moment de l'atelier et le moment de la production. Alors cet atelier, comment est-il installé chez vous ? Est-ce que, au début, vous avez évoqué la salle à manger et la chambre ?
Oui, ça, c'était quand j'habitais à Paris, dans un petit lieu où j'avais séparé Annette Messager collectionneuse, Annette Messager artiste, Annette Messager femme pratique.
Aujourd'hui, c'est comment ?
Ben aujourd'hui, j'ai des bases. J'ai pas d'atelier, j'appelle ça des bases. C'est un côté un peu militaire. Donc la base 2, c'est mon atelier en réalité, qui est un petit peu en dehors de chez moi et qui est grand. Mais j'ai des endroits où je ferai pas de dessin dans cet endroit-là. C'est trop grand. Pour des dessins, il faut un endroit un peu sombre, un peu intime. Ou des travaux de couture, c'est un autre endroit où justement, au contraire, il faut qu'il y ait un peu une lumière précise. Donc, oui, je fais des sections que j'unis, mais peut-être ça me rassure aussi de faire des listes, de faire des ordres qui sont totalement désordonnés après. Mais je fais beaucoup de listes.
Et alors comment
c'est pour ça que j'aime
Pérec
aussi.
Oui, et alors comment vous viennent les idées? Comment l'idée d'une œuvre apparaît pour les pensionnaires, par exemple, vous racontez cette histoire, donc cette œuvre de 72, vous butez dans la rue sur un petit oiseau mort, mais...
Ce qui est vrai, hein, parce que quelquefois, on peut les artistes oui. racontent des histoires, on ne sait même plus nous-mêmes si c'est vrai ou faux.
J'allais vous demander à quel point c'était métaphorique.
Non, ça c'est vrai, oui. J'ai marché sur un petit moineau mort. Mais bon, cette pièce des interdictions, j'étais dans un aéroport et j'attendais un avion et j'ai vu des panneaux d'interdiction partout. Après, je suis rentrée à Paris, j'ai vu des interdictions partout. On va au musée, pas le droit d'avoir de l'eau, pas le droit de fumer, évidemment, pas le droit de... Enfin, tout est interdit aujourd'hui, donc... J'ai regardé, je suis rentrée chez moi, j'ai fait des photos dans la rue, j'ai rentré chez moi, j'ai regardé sur internet des panneaux d'interdiction. Alors là, donc j'ai fait surtout alors en Suisse, à Singapour, on n'a pas le droit de mâcher du chewing-gum par exemple, c'est interdit. Et donc on est envahi d'interdictions. Donc avant, il était interdit d'interdire. Qui n'a pas été trouvé par les étudiants, d'ailleurs, paraît-il, mais par Jean-Yann. Un jour, on lui dit, il se passe des trucs un peu en France, particulièrement à Paris, on interdit ceci. Oh, interdit d'interdire. Ça a été repris et repris. Donc, j'ai à la fois fait plein de dessins d'après. J'ai fait un seul faux. J'aime bien introduire un faux au milieu des trucs. Mais je dis pas lequel.
Et comment ça se passe? Vous écoutez la radio? Vous écoutez de la musique?
J'écoute assez France Culture, je dois le dire. Sauf que en ce moment, j'ai des travaux épouvantables près de chez moi. Je suis obligée de travailler avec des boule-caisses.
Vous allez au café?
Qui n'est pas très...
Comment? Est-ce que vous allez au café?
Ah ben moi, je ne pourrais pas habiter dans un endroit où il n'y a pas de café. Oui, pour moi, c'est un lieu. Il y a le Parisien, déjà. Oui, non, j'écoute, je n'ai pas envie de choisir une musique. J'ai envie, justement, que la radio décide pour moi. Donc, le matin, c'est France Inter, et l'après-midi, c'est France Culture.
vous parliez, Annette Messager, de cette notion d'engagement, cette dimension politique de votre travail qui n'est jamais frontale. J'ai l'impression qu'elle passe très souvent par le corps. Par les représentations du corps.
C'est vrai que tout mon travail parle de fragments de corps, de morceaux de corps. Alors est-ce que parce que je ne sais pas. Mais pour moi justement, c'est une sorte de. Le corps est une géographie amoureuse. C'est pas le corps souffrant. Je pense que ça ressemble beaucoup aux ex-votos qu'il y a dans les églises où justement, quand j'étais petite, les malades, j'entendais toujours parler. Il y avait beaucoup de médecins, etc., d'infirmières dans la ville. Mais les malades sont toujours des gens, au contraire, très, très gais, qui ne parlent pas de leur maladie et qui, je pense, ont un sens éphémère, qui peut être éphémère de la vie. Donc, ce sont des gens vraiment qui blaguent tout le temps, qui blaguent sur leur maladie. Et c'est assez jouissif.
Dans ces représentations du corps que vous avez regardées, il y a aussi les images de Charcot. C'est souvent des corps fous, des corps un peu démoniaques que vous représentez.
Les hystériques, c'est quand même... les hystériques, ça vient du mot utérus. Tout ça, c'est quand même un peu étrange. Donc, oui, j'ai beaucoup regardé. George Didier Humberman avait fait un livre il y a longtemps dessus, qui m'a aussi beaucoup influencé. Les photos de Charcot, c'est incroyable, ces femmes tendues comme ça.
Et d'ailleurs, vous remarquez aussi souvent que le vocabulaire de la photo rejoint celui du
corps. Oui, il y a le bain d'arrêt, il y a le révélateur, il y a plein de... Mais hier, j'achète parfois des horribles petites sculptures qu'on vend dans les musées, là, le penseur de Rodin. Je voulais faire un truc et avec cette petite sculpture, et je me suis dit, tiens, c'est drôle parce que le mot penseuse, ça n'existe pas. J'ai regardé dans le dictionnaire après. Bon, il n'y a pas de penseuse. Il y a des liseuses, mais pas de penseuses.
Justement, il y a...
Donc, j'ai dit ça au café. Quand j'ai vu ça au café, je leur ai dit, on m'a dit, bah oui, c'est normal, quoi. Non.
Alors, il y a des liseuses. Il y a une chose que nous avons commencé à aborder, c'est l'écriture qui, dans votre travail, Annette Messager, a vraiment fait partie du travail plastique. Vous prenez beaucoup de notes, vous l'avez dit. Je me demandais comment était venue l'idée d'introduire l'écriture à proprement parler dans des œuvres, comme vous le faites souvent.
Ben oui, mais justement, je pense que dans l'art brut, il n'y a pas de différence entre l'écriture devient un dessin, et pour moi, l'écriture, un mot, est un dessin aussi. C'est à la fois un son, quelque chose de visuel, et en dehors du sens, c'est aussi une musique, et voilà, c'est visuel pour moi, les mots. Parce que je n'écris pas, hein, je ne sais pas écrire. Donc c'est des mots, c'est peu de choses quand même. Mais des mots répétés comme ça, qui deviennent incantatoires, comme des chants. Ce sont des chants, les mots répétés. Ils n'ont même plus de sens, on ne sait plus ce que ça veut dire un mot qu'on répète comme ça. Ça, je trouve ça assez beau, cette litanie. C'est un peu comme les prières, on ne sait même pas ce qu'on dit quand on prie.
Et à cet égard, je m'interrogeais sur les crayons qu'il y a souvent dans vos œuvres. Et je me disais que c'est souvent des crayons de couleur, donc c'est des crayons pour écrire, pour dessiner, peut-être pour griffer aussi. Et je voulais que vous nous disiez quelques mots sur cette œuvre, Gancroix.
Je ne sais même pas ce que c'est.
Ah, c'est l'œuvre que vous avez montrée à Londres, chez Marianne Goodman, dans laquelle il y a trois...
Moi ?
Ah oui.
Là, dernièrement ?
Oui, l'année dernière. Il y a gant-croix, gant-triangle, il y a une croix oblique.
Oui, oui.
Et à l'extrémité de ces croix, il y a des gants qui se terminent par des crayons qui ressemblent à des ongles et qui ressemblent à des griffes.
Mais j'ai beaucoup travaillé avec des crayons de couleur, parce que j'adore les boîtes de crayons de couleur, qui sont toujours, c'est très joli, tous ces crayons, ces nuanciers comme ça. Et puis on prend un crayon de couleur et puis ce qu'on fait, c'est nul, quoi. Ça, c'est très difficile. Et donc c'est ces crayons de couleur qui en principe symbolisent l'enfance. Et je pense pas que les enfants soient si gentils que ça, hein. Ils sont très très méchants entre eux. Et donc ces crayons de couleur deviennent des ongles. Donc ils sont à la fois gentils, ça c'est un gentil crayon de couleur, et à la fois c'est une petite arme puisque je les mets dans des gants. Dans des gants et comme des doigts, c'est des doigts griffés. Et là, pour une fois, oui, vous voyez, j'avais oublié tellement. c'est la première fois parce que c'est simple en plus, c'est presque minimal. Alors là, vieillis, là. Donc oui, c'est une forme très simple, un triangle. Et puis, aux trois extrémités, oui, je l'ai montré à Rome. À Rome, oui, oui.
Dans ce rapport,
c'est presque pur, oui. Ce qui m'inquiète parce que je suis tout à fait opposée à la pureté.
Dans ce rapport à l'écriture et au livre, vous utilisez aussi parfois des livres en tant que tels. Et finalement, vous utilisez des livres comme des objets. Et au fond, les narrations que vous proposez dans vos œuvres, parce qu'il y a de ça, peut-être ça aussi, c'est un lien avec le cinéma, sont toujours des narrations, mais des narrations extrêmement ouvertes, comme si vous laissiez au visiteur, au regardeur, le soin de faire sa propre histoire.
J'espère qu'il a un peu de liberté, parce que c'est vrai que quand on est devant un tableau, une sculpture, etc., à la fois l'artiste, il impose quelque chose, évidemment. Mais enfin, pour moi, c'est fait pour voyager dans la tête, comme ça. C'est un voyage là. Enfin, moi, les titres m'importent. Comme j'ai pas écrit, hein, parce que d'abord, pour moi, écrire, ça serait rester sur une chaise. Et moi, il faut que je bouge tout le temps, que je fasse des petites danses magiques dans mon atelier. Et donc j'ai besoin de circuler. Mais si j'ai pas un titre, je suis embêtée. Ça m'intéresse de voilà. C'est rare que le titre vienne avant, mais c'est arrivé. Alors ça me fait encore là tout un voyage comme ça dans la tête de ce que je pourrais faire par rapport à ce mot ou des mots que j'écris souvent en filet comme ça, noir. Oui.
Finalement, entre le moment où vous concevez l'œuvre et où l'œuvre entre en production,
ça dépend, ça peut être très très rapide, une chose très simple. Vous parliez de la série des dessins que j'ai fait là. Pour moi, c'est comme des haïkus. C'est très simple, ce qui est très simple et très difficile à faire d'ailleurs, parce que justement, faut pas rater. Mais un dessin, on peut rater, on jette et puis voilà. Donc ça doit se faire très vite pour moi. Ça doit se faire dans une urgence. Mais j'aime bien aussi que les choses. Si je réfléchis trop, je le fais plus. Alors, ou si je sais ce que je vais faire, ça m'intéresse pas de le réaliser. J'aime bien que ça reste une aventure, que ça divague un peu. Puis, en général, je pars d'un truc vague et j'arrive à tout à fait autre chose. Et tant mieux.
À un certain moment, au milieu des années 80, l'échelle de vos œuvres a changé et vous vous êtes étendu dans l'espace. Je pense par exemple au Piège à chimères en 84. Comment, à ce moment-là, trouvez-vous le rapport juste d'échelle et de forme dans un travail comme celui-là ? Parce que ça, c'est un travail qui se fait dans l'espace. Je veux dire, on est sorti de l'atelier et on se trouve dans un espace d'exposition.
Ah, par rapport à l'extérieur ?
Oui. Je parle de la manière dont vous vous adaptez à un espace.
Oui, je trouve ça intéressant d'avoir un travail qui peut se un peu comme une partition, il est joué différemment si c'est chez moi ou un endroit plus petit ou un autre. En réalité, c'est quand même assez directif. Ça dépend des choses. Ces gants cordes, justement, le triangle, il peut être tout petit comme il peut faire 5 mètres de haut. Ça dépend du lieu, mais c'est vrai que c'est aussi joué de voir le plan d'un musée comme ça. Bon, je suis fille d'architecte, donc j'ai vu beaucoup de plans et je piquais les plans de mon père pour faire des dessins dedans. C'est affreux pour lui, mais c'est un côté jeu où on voit au-dessus que quelquefois ils vous amènent des maquettes. Alors c'est très amusant de jouer comme ça avec les œuvres qui découpent en petits. Les gens de musée, hein, font ça très bien. Et on met ça là, ça là, ça là. Et puis on peut tout changer. Mais j'aime bien travailler beaucoup comme ça sur les plans, ce qui permet quand j'arrive dans l'endroit de tout changer encore. Je veux dire, quand on s'est approprié quelque chose vraiment, on a une liberté beaucoup plus grande justement de changer. Mais tout ça se fait toujours, les expositions se montrent rapidement. Faut pas embêter les gens qui travaillent là, dire là, ben non, je le veux là, et puis ça, je le veux là. Non, faut quand même respecter un peu chacun. Et donc ça, j'aime assez bien faire ça parce que c'est le contraire de ce que je suis chez moi. J'ai l'impression que c'est une autre personne.
En 2002, vous êtes invité à la Documenta à Cassel. Et là, vous préparez ce que l'on dit être votre première œuvre animée. Mais en fait, dès les pensionnaires en 72 dont on parlait, les petits moineaux empaillés.
Les petits moteurs.
Il y avait des petits moteurs.
Oui, oui.
Il y avait du mouvement. Mais ça donne à cette œuvre de Cassel, articulée, désarticulée, quelque chose de théâtral que l'on va retrouver ensuite beaucoup dans votre œuvre. Je me demandais d'où venait cette inspiration théâtrale.
Oui, non, c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai fait des sortes de, j'avais exposé à Nantes et tout ça, ce que j'ai appelé les balades des pendus, où c'est un peu, vous savez, comme dans les pressings où on voit les vêtements qui défilent comme ça, et donc sur des rails, j'avais installé des sortes de pantins, de personnages qui bougent comme ça, qui se désarticulent, quoi, qui sont un peu misérables. Je veux dire, c'est nous-mêmes, hein, on s'agite jusqu'au bout et on a raison, mais voilà, on sait très bien où ça finit tout ça. Donc c'était un peu l'idée et la Documenta où justement là, c'était au moment des vaches folles. Donc j'avais mis au sol, et puis il y a une vache qui fermait l'enclos, qui était tirée. Donc ces photos de vaches folles étaient très très impressionnantes. Et on dit pas des bœufs fous, hein. Eh ben oui, parce que c'est du bœuf qu'on mange, mais on appelle les vaches folles. C'est un peu étrange. Et donc ces vaches folles, ces photos, c'était terrible, le groupe de. Et donc c'était en tissu comme ça, je les avais faites, et il y en avait une qui était tirée, voilà, embarquée, mais elle tournait constamment en rond. Et par contre, du haut, il y avait des sortes de nous-mêmes articulés, désarticulés, vaguement dansant, des objets tenus par des bras, des mains. C'était complètement fou. 40 moteurs, donc 40 computérisés, je ne connaissais rien. Et quand on ne connaît rien, on fait des choses comme ça, incroyables, ça c'est bien.
Et alors justement, comment ça se passe? Parce que ça c'est très différent de ce que... Enfin, c'est un travail qui nécessite beaucoup plus de collaborateurs que le travail...
J'avais un garçon qui ne connaissait pas beaucoup plus que moi, mais, que j'avais rencontré à Avignon, à la beauté d'Avignon, qui était régisseur là-bas, et avec qui j'avais sympathisé. Et donc, voilà, il a travaillé pour ça. Et après, il y a quelques... un peu, pas beaucoup, à ce moment-là, pour la couture, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à coudre. Et puis, à renforcer les choses qui sont traînées, qui frottent. Il faut les renforcer, parce qu'il y a des mouvements.
Quel genre de rapport vous avez avec ces équipes? Vous leur laissez une part de créativité propre? C'est vous qui contrôlez?
Faut pas exagérer non plus. Non, mais quelquefois, c'est ils posent des choses où il faut pas. Où moi, je dis pose. Je me souviens d'une série que je faisais de Pic. Et j'ai dit à la fille, tu le poses. Pour moi, c'était la poser contre le mur. Et elle l'a posée dans l'espace, contre une table. Et tout ça. Je lui ai dit, mais elle a raison. Ça doit être dans l'espace. Alors des choses, des accidents comme ça, des incidents, ça arrive avec d'autres. Mais je travaille avec des gens jeunes. Et c'est agréable.
Dans ces grandes installations, quelle importance faites-vous au son? C'est important, le son?
Oui, alors là, le son, j'y avais pas pensé. Il est venu parce que quand il y a un moteur, il y a du son. Donc, ça a amené une sorte de vent, d'aération, de courant d'air, comme ça, qui me plaît. Que j'aime bien, justement, à Venise, il y avait un son. Ça m'a rappelé le vent de Berck, comme ça. Et j'aime bien ça, ces choses inattendues de moteur. Donc ça devient une sorte de, ça venait pour moi une sorte de petit opéra où il y a à la fois le mouvement, le son, la lumière aussi est importante. Justement, dernièrement, j'avais fait des costumes pour un opéra comique. Et là aussi, justement, ça m'a posé. Moi, j'ai fait les costumes. C'était un opéra baroque de Dauvergne c'est très très rare, qui était réapproprié par un musicien contemporain, un compositeur, Gérard Pesson. Donc il y avait la partition à la fois baroque et de Gérard Pesson qui était liée. Et c'était quelques jours après l'attentat du Bataclan. Donc c'est un opéra comique, c'est drôle, c'est léger. Et moi je pensais qu'il fallait repousser, mais c'était pas possible dans le cadre du festival d'automne. Donc on a joué quelques jours. Donc évidemment beaucoup de gens à ce moment-là n'osaient pas sortir. Et alors j'ai senti le début où personne n'osait sourire, personne n'osait. Et à la fin, les gens éclataient de rire. Je crois qu'il y avait un tel besoin de respiration, d'autre chose, que c'était un bonheur à la fin. Et après, on est allé à quelques-uns dîner à côté. J'ai jamais déconné autant, dit de choses aussi stupides, et on était tous, mais super. excitée, énervée, parce que je crois qu'on avait été tellement tendus pendant ces jours-là que et je me suis dit, mais justement, est-ce que quand on est dans une époque, ce que je me dis, de drame, de choses, est-ce qu'au contraire, il ne faut pas avoir de la joie? Matisse, pendant la guerre, sa fille était résistante, était emprisonnée, il a peint des fleurs. Et est-ce qu'au contraire, on ne doit pas plutôt que remettre se remettre dans des choses terribles alors qu'on ne peut pas les résoudre? Est-ce qu'il ne faut pas au contraire, je crois qu'il n'y a pas de réponse que les deux peuvent être, mais une sorte de, au contraire, de peut-être plus de légèreté ou plus de joie de vivre qui est une résistance.
Cet état comme ça entre la mort et la vie et entre le désespoir et une forme de gaieté, c'est aussi l'atmosphère qu'il y avait dans votre pavillon à Venise en 2005, Casino, qui était l'histoire de Pinocchio, un petit pantin qui traînait dans votre atelier et qui, en trouvant la vie, a trouvé la mort. Et c'était une sorte d'opéra en trois actes qu'on traversait comme ça. Je voulais, puisque cette masterclass examine vraiment les modes de travail des artistes, réfléchir au rapport que vous avez avec vos commissaires. Pour ce projet, c'était Suzanne Paget et Béatrice Parent. Comment vous avez travaillé avec elles?
Bon, j'ai travaillé comme je voulais. Ah non, non, ça... Bon, pour le catalogue, c'est un peu plus compliqué parce que là, chaque virgule... Bon, enfin, c'est pas grave, une virgule de plus ou de moins. Mais, si je fais une expo, c'est moi qui l'a fait. Je veux dire, on fait une meilleure exposition si c'est pas les lieux qui comptent, c'est pas les locaux, c'est les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, c'est important s'il y a des affinités, si on s'entend bien avec la personne. Ça ajoute, on travaille mieux, je crois. Enfin, on est plus fort à plusieurs. Mais avec Suzanne Paget, je dois dire qu'elle m'a fait 4 expositions personnelles dans le musée.
Donc, d'art moderne de la ville de Paris.
Oui,
c'est des liens très étroits que vous avez eus depuis plus de 40 ans. Finalement, vous ne prenez jamais en compte les regards extérieurs, que ce soit les commissaires, les amis, sur votre travail. Il n'y a jamais, avant que l'œuvre soit terminée, de conversation avec des gens.
Ah si, des conversations justement pour la Biennale, il y en a eu, des discussions, mais...
D'autres amis artistes, je sais...
Entre artistes?
Oui, enfin, je me demande dans quelle mesure vous prenez en compte des regards extérieurs sur votre travail au moment où vous le faites.
Au moment où je le fais, non, je pense pas, parce que là, c'est quand même un peu un enfermement. Il faut rester avec soi et ce qu'on veut faire, là. Si j'installe une exposition à l'étranger, je vais pas aller voir, on me dit ah ben viens ce soir, il y a un vernissage, ou je veux pas voir d'autres expositions, je veux rester là comme ça. Faut être un peu stupide hein, mais c'est vrai, il faut être un peu primaire, il faut être un peu neutre aussi, se neutraliser, je crois, pour faire quelque chose. Faut pas être envahi par l'extérieur, par des travaux d'artistes. Il faut revenir vraiment au côté presque enfant, quoi.
C'est aussi une question qui revient de manière récurrente dans ces masterclass de France Culture. Quand savez-vous qu'une œuvre est achevée?
D'abord, en général, je la sors pas. Je vis avec pendant quelques mois. J'essaie en tous les cas. Et donc, où je change un peu quelque chose, et puis un jour, je vois que je peux plus rien faire. Mais donc il y a un jour où je décide, c'est fini. Et voilà.
Et enfin, est-ce que quand vous travaillez, vous prenez en compte l'éventuel regard de vos visiteurs? Est-ce que vous pensez au public à un moment avant que l'exposition
soit ouverte? J'essaie de pas y penser, hein, parce que alors là, ça serait terrible quand même. Par exemple, si on veut parler de visiteurs, mais des collectionneurs, moi je sais très bien ce qui pourrait se vendre le mieux. J'ai eu la chance que aucune galerie avec lesquelles j'ai travaillé, parce qu'il y en a qui disent ouais, l'artiste ça se vend mieux, l'artiste parfois est faible. Mais là je dois dire que j'ai toujours été libre par rapport à ça. Je sais très bien ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça marche très très bien financièrement, mais je m'ennuierais quand même beaucoup. Et si je pense aux visiteurs, quand je fais le plan pour la déambulation, ça serait mieux de passer d'une chose à l'autre ou de revenir. Là, je pense aux visiteurs, mais quand je fais un travail, la Villa Médicis, par exemple, c'était un lieu très particulier où il y a des escaliers, c'est très étroit. C'était les chevaux, d'ailleurs, de Napoléon qui montaient là. Donc là, je me dis, ça serait bien que le visiteur, c'est haut de plafond, il ait la tête levée alors qu'il marche. Et donc, j'ai placé des choses très, très hautes. Avec des miroirs, comme ça, ils se voient en même temps qu'ils regardent les œuvres.
Au cours des années récentes, et depuis le début, votre œuvre s'est toujours énormément renouvelée. Vous faites toujours des séries comme si... Non pas comme si on recommençait à zéro, mais en tout cas...
Peut-être
comme si c'était la dernière. Est-ce qu'une œuvre...
C'est la dernière, la seule importante.
C'est vrai. Est-ce qu'une œuvre se fait en relation avec la précédente? Vous évoquiez par exemple les costumes de scène que vous avez fait pour La Double Coquette. J'ai cru comprendre que c'était ce costume qui vous avait inspiré la fontaine que vous avez fait dans l'exposition de la Villa Médicis, par exemple.
Oui, c'est un peu vrai ce que vous dites, j'avais oublié. Mais oui, parce que j'avais depuis longtemps, j'avais un serpent en plastique et dans la Double Coquette, elle joue beaucoup avec ce serpent qu'elle jette. À la Villa des Médicis, ils m'ont demandé aussi d'occuper les lieux extérieurs. Et donc, il y a une fontaine qui est pas à l'échelle, elle est vraiment... carrément un peu moche, cette fontaine. C'est splendide, la Villa Médicis, mais en réalité, je crois que c'était presque une sorte de forêt à cet endroit-là, très touffu, et qu'ils ont tout élagué. Et donc, elle est un peu médiocre, un peu petite. Et donc, je me suis dit, ça serait bien que de l'eau jaillisse de ces serpents en plastique. Mais je ne pensais pas que ça se réaliserait vraiment. Puis finalement, oui, ça s'est fait.
Est-ce que le dialogue que vous avez établi avec le lieu à la Villa Médicis ne serait, enfin, il y a toujours dans vos expositions un dialogue avec le lieu. J'ai l'impression que là, c'était d'une ampleur particulière, c'était d'une intensité. Le dialogue que vous avez mis en place avec la Villa Médicis était d'une intensité particulière.
Moi, j'en sais rien, mais en tous les cas, pour Balthus, j'ai voulu un peu l'embêter, oui, parce que Balthus, quand même. J'ai fait un papier peint. Balthus avait un atelier dans les jardins de la villa. Et j'avais dessiné peu de temps avant beaucoup d'utérus, un peu comme un vase de fleurs. Donc j'ai fait faire un papier peint avec ces utérus, parce que beaucoup de jeunes utérus sont passés dans l'atelier de Balthus. Donc il y a un très grand mur... voilà, de l'utérus, et puis il y a la Joconde, la poupée Joconde, qui n'a pas de moustache, mais qui a un utérus, et j'ai écrit Balthutérus, j'ai répété comme ça, qu'une forme un peu en zigzag. Voilà, oui, celui-là, je voulais quand même un peu Balthus. Et puis, bon, j'ai joué sur... Oui, il y a aussi des buissons, donc j'ai fait tailler des buis... des animaux. En fait, j'aurais voulu faire un énorme escalier et escargot dans les buissons, mais m'était interdit. Parce que tout est historique, hein. Il faut faire un peu attention à tout.
Ce que vous racontez sur Balthus et sur ses dessins, sur les phémènes qu'on a évoqués à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, cette masterclass de France Culture, revient à savoir la question de la place de l'artiste dans la société. Finalement, c'est une question très souvent posée, on a l'impression de l'avoir entendue mille fois, et aujourd'hui, elle est malheureusement toujours plus d'actualité. Est-ce que vous avez l'impression... J'ai pas l'impression que vous apportiez de réponse à aucun moment, mais j'ai l'impression aujourd'hui, particulièrement, quand même que vous donnez de la voix un peu plus qu'auparavant dans cette arène politique.
Oui, mais enfin, c'est pas. Je crois que l'art ne sert à rien. Donc, on est totalement libre. Et justement, parce qu'il sert à rien, je crois qu'il est très important. Parce que c'est une forme de liberté. On a tellement peu de liberté, on a tellement des peurs aujourd'hui que cette espèce de liberté, il faut l'augmenter encore. Donc, je crois que quand même, l'art, c'est très, très important, au contraire, parce que ce n'est pas important. Mais oui, non, je sais pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le début de la pilule, l'avortement libre, et quand j'entendais que c'était de plus en plus contesté, que les femmes polonaises, voilà, ont manifesté, que Trump était, enfin, que le monde se referme et donc les libertés se referment et les libertés pour les femmes. Était remise en cause. Je n'en revenais pas qu'on pouvait remettre l'avortement en cause et les choses contre le mariage pour tous, la vie pour tous, qui a eu à Paris, il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps encore, il y a 6 mois peut-être, j'étais prise dans une manifestation comme ça avec plein de jeunes gens dans cette manifestation. Donc ça me paraît tellement fou par rapport à ce qu'on vivait après 68, etc., que oui, ça me fait réagir quand même.
C'est une urgence qui vous pousse.
C'est une urgence. Vous savez, j'habite en banlieue. Moi, j'adore où je suis. Il y a beaucoup. Ils font tous le Ramadan en ce moment-là. Il y a des Kabyles. Il y a le boulanger polonais, le cordonnier italien. La pharmacienne est guadeloupéenne, tout ça, on s'entend tous très très bien, tout va très bien. Mais en même temps, le matin, quand au café avec le Parisien, le journal, il y a des voilà des et je trouve ça formidable toutes ces questions, toutes ces gens qui vivent différemment et malheureusement dans le quartier, il y a aussi plus de femmes voilées qu'avant. Donc, évidemment que tout ça, on ne peut pas être indifférent à tout ça, même si je n'apporterai pas de solution.
Puisqu'on s'achevine vers la fin de cette masterclass de France Culture, à l'issue de quelques années de travail, est-ce que vous avez le sentiment que dans une pratique artistique, on peut progresser ?
Justement, je ne pense pas qu'il y ait des progrès. Il y a des progrès parce qu'il y a des techniques qui évoluent et qu'il n'y avait pas de vidéo avant, qu'il n'y avait pas d'internet. Mais je pense qu'il y a des questions qui sont différentes et que pour moi, actuellement, on est dans. Il n'y a pas de réponse, mais il y a beaucoup de questions par rapport à notre société, par rapport. Il y a un vote demain qui va avoir lieu. Par rapport à ces élections, on a tous eu très peur. Donc il y a beaucoup de questions. Je veux dire que chaque citoyen est important.
Pour continuer sur cette idée d'un éventuel progrès en art, dans l'exposition de la Villa Médicis, il y a une pièce dont vous parliez à l'instant, dans l'escalier avec ses personnages suspendus et ses miroirs, dans laquelle je crois vous avez revisité une œuvre que vous aviez montrée en 2000. Dans l'exposition qui était consacrée à la beauté en Avignon. Quel sens cela a pour vous ? Parce que dans votre œuvre, il y a tout un vocabulaire formel que vous avez progressivement mis en place et qui revient régulièrement. Revisiter une œuvre de cette manière, ce n'est pas une chose que vous avez fait si souvent, ou je me trompe ?
Non, mais là, c'était pour le Palais des Papes à Avignon et dans la salle des visiteurs, d'ailleurs, une très grande salle. Et là, la Villa Médicis, c'est pas loin du Pape, hein. Ma chambre, elle donnait, je dirais pas sur la chambre du pape, mais tout près, tous les soirs, on pouvait se faire des petits hello. Et donc, c'était aussi un clin d'œil au pape. Et puis, j'avais pas souvent remontré.
C'était un clin d'œil au pape parce que c'est des croix à l'envers. Enfin, il y a une partie de.
Oui, mais ça, j'avais fait dans le Palais des Papes. C'est-à-dire que quand on met une croix, c'était des croix en crayon de couleur, à l'envers, mais ça devient satanique. C'est une croix satanique. Donc, c'est bien pour le pape.
Oui, C'est un bon invité des petits diables à la Villa Médicis. Pour revenir à une question plus générale et pour nous acheminer vraiment vers la fin de cette masterclass de France Culture, Annette Messager, comme nous le faisons avec tous nos invités, je voulais revenir sur tous ces honneurs que vous avez reçus, le Lion d'or de la Biennale de Venise, le prix Premium Impérial. Cette forme de reconnaissance, comment la vivez-vous? Est-ce que finalement la consécration, ça existe?
Ben, je crois pas. Je crois que pour un artiste, c'est de continuer qui est important, qui existe. Non.
Et la question.
On peut chuter chaque instant. Hein. C'est ce qui est bien d'ailleurs, hein. C'est ce qui est motivant.
Et cette question de la postérité, est-ce qu'elle se pose pour vous?
Non. Non.
Je crois que vous aimez le film Lola Montes.
Ah oui. J'adore.
Lola Montes, on lui demande de sauter dans le vide et on lui demande de sauter toujours plus haut.
Ben, on l'interroge, c'est un peu ce qui se passe ici. Hein. Je suis un peu la Lola Montes de France Culture aujourd'hui, excusez-moi, mais où on lui pose des questions très indiscrètes et elle doit répondre sur sa vie, etc. Et puis elle est devenue comme un animal de cirque, mais moi aussi là en ce moment.
Mais il y a quand même une certaine bienveillance de la part de son producteur, du producteur qui l'a.
Il la considère comme un fauve, comme un qui l'a dompté. Ah moi je vois pas bienveillant du tout.
Et en même temps il la comprend.
Eh ben il la comprend parce qu'il est aussi perdu qu'elle. Et puis si elle meurt, il perd des sous, il perd son animal qui rapporte. Donc c'est un peu ça, hein, les artistes et les galeries et ce monde.
Et... Oh
oui, oui.
Merci Annette Messager d'avoir partagé avec nous ces quelques réflexions sur votre travail pour cette masterclass de France Culture. Hein.
C'était la masterclass d'Annette Messager avec Anaëlle Pijat. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.